Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux.
Bah, merci de me recevoir.
Pour nous parler de votre vraie vie, qui est une vision assez terrifiante de la vraie vie. Votre vraie vie est très terrifiante.
Ah oui ?
Non, vous trouvez pas ?
Je sais pas, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, ça correspond à ma vision de la réalité, qui est pas toujours extrêmement joyeuse. Après, je pars d'un constat qui est relativement noir. Et puis, comme je suis quelqu'un de très optimiste, il y a énormément d'espoir dans le livre. Mais c'est vrai qu'on part d'un constat qui est plutôt pas très funky, mais qui correspond à ma vision de la vraie vie. Oui.
Votre vision, en fait, c'est quand même d'évoluer dans un monde dans lequel il faut se battre.
Oui, et dans lequel, en tout cas, les enfants vont avoir du mal, plus de mal que ce que ma génération a pu connaître. Et j'ai déjà eu plus de difficultés que celles de mes parents. Mais je pense que oui, les enfants d'aujourd'hui, mes enfants, je suis très très inquiète par rapport à leur avenir. Et je crois qu'il va y avoir pas mal de combats à mener, oui.
Notamment la banalité du mal. On pourrait dire ça, parce que finalement, dans votre livre, vous campez vraiment alors un mal d'une grande violence, mais sur un mode tout à fait banal, presque normé, presque accepté, et donc presque sourd. C'est-à-dire que c'est accepté par tout le monde.
Mais la violence, elle est quotidienne. Effectivement, dans la vraie vie, je le présente comme ça. Mais de nouveau, là, pour le coup, ça correspond à ma vision de la réalité. Hier, j'étais à Toulouse, je me lève le matin pour aller prendre mon train. Je passe dans la rue, il y avait des gens qui dormaient sur le trottoir. C'est déjà quelque chose d'atrocement violent, je trouve. Et je me retourne, et ça, j'avais quand même jamais vu. C'était des enfants. C'était une famille, il y avait des enfants qui dormaient dehors. Oui, je trouve ça d'une violence assez...
Oui, ah oui, bien sûr, avec plaisir.
Et voilà, je trouve ça d'une violence assez incroyable. Et oui, il y a une banalisation de la violence. Elle se trouve partout.
À ce propos, j'ai noté une phrase dans votre livre. Enfin, comme vous voyez, j'en ai noté plusieurs. Vous dites « Chacun s'en retournait à sa prostration solitaire devant sa télé, cultivant au choix dépression, aigreur, misanthropie, apathie ou diabète. »
Bon, ça me fait un peu marrer aussi d'écrire des phrases comme ça, je vous avoue. Oui, c'est noir, c'est mordant. Après, je force un peu le trait aussi parce que ça m'amuse et parce qu'il y a du second degré dans ce genre de phrase, clairement.
Il n'y a pas que du second degré, il y a de la peinture. Moi, j'ai vu un grand rapprochement avec Niki de Saint-Phalle, par exemple.
Ah oui.
C'est-à-dire une description des situations qui est à la fois très joyeux et en même temps d'une grande noirceur. Ça m'a vraiment fait penser à Niki de Saint-Phalle. Ça vous parle si je vous dis Niki de Saint-Phalle ?
Non, pas particulièrement, je vous avoue.
D'autres peintres, d'autres peintures ? Pas plus que
oui,
ça.
Non, si on pourrait. Alors là, pour le coup, je vais citer un Belge. Si on regarde l'Empire des Lumières de Magritte,
oui.
Avec ce décor qui est à la fois dans l'obscurité, on a ce bâtiment qui est dans le noir, avec un ciel bleu. Donc voilà, s'il fallait faire un parallèle avec la peinture, ce serait peut-être plutôt celui-là. Ou avec... il y a un photographe dont l'univers est super proche de la vraie vie. Comment il s'appelle ? Merde. Évidemment, je ne reviens pas sur son nom. Un photographe américain qui photographie comme ça et ça ressemble à des peintures. On a vraiment l'impression que c'est des peintures et quand on regarde de près, on se rend compte que non, effectivement, ce sont des photos. Et qui photographie comme ça la vie des Américains avec quelque chose d'extrêmement sordide, d'extrêmement noir.
Il y a la souffrance aussi d'Edward Hopper. Moi, j'ai trouvé...
Oui, c'est
avait...
ça. Oui, oui, oui.
C'est-à-dire, voilà, des scènes très banales, très quotidiennes et en même temps empreintes d'émotions très très fortes.
Oui.
Je trouve que votre livre est assez pictural et il est aussi très sensoriel puisque vous avez des odeurs pour tout. Il y a l'odeur du désespoir, l'odeur du laisser-aller. Et donc, vous êtes très sensible, vous, tous les jours, Adeline Dieudonné, aux images, aux odeurs, tout vous touche facilement ?
Je sais pas si moi je suis particulièrement sensible. C'est juste qu'effectivement, quand on se met à écrire, à un moment il faut décrire les choses et il faut transmettre des sensations, des émotions au lecteur. Et donc essayer de décrire de la façon la plus juste possible. Et à ce moment-là, effectivement, alors je vais convoquer tous les sens pour arriver à donner dans une économie de moyens maximale, avec le moins de mots possible, pouvoir envoyer des sensations les plus exactes possibles.
Pourquoi une petite fille ?
Alors j'ai beaucoup de mal avec à répondre au pourquoi, parce que j'ai pas le sentiment de choisir grand chose quand j'écris. C'est-à-dire que là, quand j'ai commencé à écrire La vraie vie, voilà, je sais pas, il y a la voix de cette gamine qui est arrivée, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de voir où elle va. Elle a commencé par décrire cet accident qui survient la première année et qui la traumatise, elle et son petit frère. Et je me suis dit, tiens, mais alors c'est qui ces deux enfants ? Et j'ai eu envie de les suivre, mais le pourquoi est très compliqué, parce que le pourquoi impliquerait une préméditation et une préparation au travail d'écriture, où je me serais dit, tiens, de quoi j'ai envie de parler ? J'ai envie d'écrire un roman, de quoi ça va parler ? Quels sont les thèmes que j'ai envie de développer ? Quels sont les personnages que j'ai envie de faire vivre ? Et en fait, ça fonctionne complètement à l'inverse. Les personnages préexistent.
Adeline Dieudonné, cette petite fille, on la voit grandir avec son petit frère. Le mal que vous décrivez, vous l'appelez la vermine qui grandit, qui grossit. Et alors moi, ça m'a fait penser à la croissance de cette petite fille aussi, c'est-à-dire qu'en même temps que le mal grandit, elle-même grandit, donc elle est en pleine croissance, qui est un mot qu'on peut prendre dans vraiment beaucoup de sens possibles dans votre ouvrage.
Oui.
Et plus elle grandit, plus elle réalise la réalité du mal. Elle prend conscience comme quand on grandit. Et vraiment, encore une fois, cette histoire de croissance, dans tous les sens du terme, je trouve qu'elle est vraiment en filigrane sur tout votre ouvrage. Je ne vous demande pas pourquoi, du coup. Mais vous avez eu vous l'avez ressenti en l'écrivant ?
En tout cas, oui. C'est sûr que j'ai eu envie de voir l'évolution. À la fois l'évolution de la petite, mais effectivement l'évolution de son petit frère, comment cette situation de départ allait faire évoluer la vie des personnages. Et c'est vrai qu'elle va, elle va traverser, elle va faire son parcours initiatique, son parcours d'émancipation. Et c'est vrai que c'est un roman qui parle de la sortie de l'enfance. Comment on sort de l'enfance, comment la violence et l'atrocité de la réalité vient s'immiscer dans l'enfance et vient tout à coup sortir des gamins de cette période sucrée, colorée dans laquelle ils sont. Et puis ça, c'est l'élément déclencheur. Après, elle va apprivoiser aussi, je pense que comme on l'a tous fait à un moment, enfin moi c'est comme ça que je définirais la sortie de ma propre enfance, c'est un moment réalisé, la réalité de la mort, la réalité de ma vie qui va se finir, mais surtout de celle de mon entourage, des gens que j'aime, la terreur qu'on peut ressentir par rapport à ça, et puis comment on s'habitue à cette idée-là, comment on l'apprivoise, comment on apprend à la gérer au quotidien. Quand on devient parent soi-même, c'est une terreur qui nous suit, évidemment, parce qu'on a peur pour nos petits, mais on apprend à la gérer, sinon on serait tous en boule au fond de notre lit à sangloter toute la journée. Donc elle va apprendre ça. Et ça m'intéressait de voir quels sont les outils qui vont jouer pour apprivoiser cette idée-là. Et donc, à travers ça, il y a beaucoup de lumière. Et donc, il y a tout ce qu'il va y avoir de positif aussi, qui va l'aider à grandir, qui vont être, évidemment, la science, l'apprentissage, comment on se cultive, comment l'apprentissage et l'éducation peuvent nous aider aussi à dompter notre animal intérieur et à en faire quelque chose de bien. Et puis l'autre bête intérieure qui prend naissance, c'est la sensualité, le désir physique. Comment ça naît dans le ventre d'une petite fille et comment ça évolue, comment cette bête-là aussi, elle apprend à l'apprivoiser, en même temps pas trop, et elle découvre comment elle peut prendre du plaisir et comment elle peut tirer sa force aussi de cette bête-là.
C'est un roman très moderne, puisque vous parlez effectivement de cette petite fille qui va s'en sortir, en tout cas on lui souhaite, par l'éducation, qui est quand même un sujet d'actualité. Et donc cette petite fille, son meilleur allié, c'est l'apprentissage, ce sont aussi ses alliés, puisque pour apprendre, elle doit se trouver des référents. Et donc il y a quand même vraiment... tout un travail, une réflexion dans votre livre sur la force de l'éducation pour les petites filles pour aller de l'avant.
Oui, c'est-à-dire qu'elle naît dans un contexte familial où, en gros, son père lui fait comprendre que en tant que fille, enfin, il y a un vrai déterminisme de genre, c'est-à-dire qu'en tant que fille, il y a des domaines auxquels elle n'a pas accès, et en tant que fille, elle est destinée à devenir une proie comme sa maman, parce que son père est un vrai prédateur. Et effectivement, comment cette petite fille va se positionner par rapport à cette injonction-là, et comment elle va décider que elle sera pas une proie, mais elle sera pas nécessairement non plus un prédateur, que finalement elle peut sortir de cette vision binaire de la vie que son père cherche cherche inconsciemment, parce qu'évidemment il le fait pas à dessein, mais c'est ce qu'il lui transmet, c'est ce qu'il essaie de lui transmettre. Elle va découvrir que elle a le droit d'être autre chose que ça. Et c'est vrai que ça parle aussi des modèles qu'on a. Elle découvre Marie Curie et elle se dit « Ah oui, ok, donc on a le droit d'être une femme et de prendre sa place dans le domaine scientifique, de prendre sa place dans le progrès et de devenir une autre chose qu'une amibe, ce qu'est sa maman, enfin ce qu'elle considère sa maman comme une amibe complètement inexistante, complètement effacée sous les coups de son mari. » Et elle se dit, voilà, moi, je m'autorise ça. J'ai le droit de devenir Marie Curie, parce qu'elle a existé. Et donc, il n'y a pas de raison que moi, je n'ai pas droit à ça aussi.
C'est presque un manifeste pour les petites filles qui peuvent grandir autrement.
Oui, je ne l'ai pas du tout voulu comme ça. Je crois que je suis simplement partie de mon expérience de fille. Où moi aussi, je l'ai expérimenté. Alors que je suis née dans les années 80, dans un milieu tout à fait moderne. Et j'ai pas, je pense pas avoir été élevée par un macho. Loin de là. Mais malgré tout, il y avait quand même cette idée que j'avais pas droit à tout, qu'il y a des domaines dans lesquels il faut laisser les garçons s'exprimer, que nous on doit rester un petit peu en retrait. Et donc j'ai pas du tout voulu comme un manifeste. Simplement ça s'est écrit tout seul. Je me suis dit tiens, mais j'ai envie d'autre chose pour elle. J'ai envie qu'elle s'offre une autre chance que celle qu'on, enfin voilà, une autre destinée que celle qui est toute tracée à la base. Donc oui, il y a quelque chose du manifeste, oui.
D'ailleurs, votre personnage, vous disiez, c'est un roman assez lumineux. C'est effectivement tous les jours votre personnage, et vous l'écrivez comme ça. Hein, vous écrivez tout ce qui a trait au commencement m'intéresse. Cette petite fille a la perspective tous les jours de pouvoir recommencer.
Oui, tout à fait. Enfin, et puis c'est aussi l'idée de la page blanche. Qui l'intéresse, de se dire au moment où on va commencer quelque chose, on a toutes les perspectives, on a toutes les possibilités, et puis évidemment on se rend compte que les choses se passent jamais comme on les avait imaginées et qu'elles sont évidemment beaucoup plus compliquées. Mais elle a une fascination pour le commencement, et peut-être que oui, c'est un rapport avec le fait qu'elle est au commencement de sa vie et qu'elle a, elle a tout à gagner.
Et vous avez une fascination pour le commencement, la page blanche?
Non, j'aimais bien la rentrée des classes. j'aimais bien effectivement ce moment où on projette, où tout est neuf aussi. On a des nouveaux cahiers, des nouveaux crayons, et où les choses ont encore l'air relativement simples. Mais non, sinon dans l'absolu, j'aime mieux. Si on doit parler d'écriture, j'aime mieux le projet quand il est bien commencé. Le début me terrifie, la page blanche me terrifie quand même un petit peu.
Vous faites aussi un parallèle assez intéressant, puisque vous disiez qu'elle voit sa maman comme une amibe, elle voit le mâle comme une vermine. Elle fait beaucoup de parallèles avec les animaux, cette petite fille.
Oui, bah ça c'est moi.
Ça c'est vous.
Oui, ça c'est
vous. Vous voyez d'abord des animaux quand vous voyez les gens.
Oui, clairement. Et c'est récurrent dans mon écriture, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire il y a très peu de temps par une pièce de théâtre qui s'appelle Bonobo Moussaka. Donc voilà, déjà dans le titre, on retrouve les animaux. Et où effectivement, déjà, je compare les gens à des animaux et je compare les comportements humains à des comportements de meute, à des comportements grégaires. Bon, en l'occurrence, dans Bonobo, c'est les meutes de loups. Mais je pense effectivement qu'on est des animaux qui avons évolué certainement, mais on continue de se comporter. On a des attitudes encore très tribales. Et oui, je nous vois comme des animaux. Et c'est vrai qu'il y a un champ lexical qui est très relié à ça dans la vraie vie. Mais si vous lisez d'autres choses que j'ai écrites, c'est assez récurrent.
Et donc finalement, vous trouvez que l'homme a beaucoup avancé. Donc dans votre livre, il y a ce côté des nouvelles technologies, des mathématiques quantiques aussi, donc d'une grande progression. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il reste primaire.
Oui, oui, oui.
Mais c'est vraiment parallèle entre les deux. Tout le long de votre livre, on voit bien qu'il n'y a rien à faire. Même si on avance, il y a un truc où on ne pourra pas faire mieux.
Ben l'un n'empêche pas l'autre. Selon moi, vraiment, l'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est juste une histoire d'apprivoiser cette bête, comme je le disais. Mais pour moi, le meilleur exemple, c'est la sexualité. C'est que là, on a des pulsions qui s'expriment de façon très claire, qui sont purement animales. Le premier but, c'est quand même la reproduction. Et c'est une belle façon d'exprimer notre animalité. C'est un endroit dans lequel on aime retrouver notre animalité. Et ça n'a rien, je pense, d'incompatible avec la civilisation, avec le fait de s'élever, avec le fait de progresser. Après, la seule chose, c'est qu'effectivement, dans cet animal, il y a peut-être des pulsions qu'il faut apprendre à je ne sais pas si c'est les dompter ou à les détourner, en tout cas à transformer des pulsions négatives, des pulsions sauvages, comme effectivement le mari qui tape sur sa femme parce qu'en fait c'est la seule façon qu'il trouve pour gérer sa colère, à les transformer en autre chose, à les sublimer. Et donc, mais moi je pense que c'est juste ça, nos pulsions elles existent et on doit faire avec, on est des animaux. Après c'est juste la façon dont on va les gérer et en faire quelque chose de beau. Et je pense que l'art est l'expression de ces pulsions animales, c'est juste une jolie façon de les gérer.
Il y a des détails, comme vous le dites, alors il y a un vocabulaire très animalier, puis il y a aussi des détails qui rappellent vraiment l'instinct animal. Par exemple, votre personnage à un moment donné prend des risques et calcule comme un animal, fait bien attention à la latte du parquet, sur toute la surface du parquet, celle qui grince, qu'il faut éviter pour pas se faire remarquer. En fait, vraiment avec une organisation d'observation.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, de la même façon que, à un moment, elle parle aussi de l'adrénaline. Oui. Elle a un gros, gros, gros coup de flip. Et elle analyse, elle se dit, tiens, ma vue s'est brouillée. Et elle se rappelle effectivement qu'elle a lu des trucs sur l'adrénaline et l'effet que ça pouvait avoir sur le corps. Et donc, de nouveau, effectivement, c'est des réflexes d'animal qui, à un moment, doit fuir. Et donc, pour pouvoir fuir, il faut alimenter ses muscles en sang et en oxygène. Et c'est à ça que sert l'adrénaline. Enfin, voilà, tous ces fonctionnements-là, ils sont fabuleux à observer. Et elle se pose en observatrice du fonctionnement de son corps et ça l'émerveille et en même temps voilà à certains moments elle ne fait juste qu'observer et elle applique comme un animal elle suit son instinct.
Vous êtes une passionnée de science?
C'est une bonne question, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai un petit peu de mal à y répondre. Oui, j'aime beaucoup les sciences, après je ne les ai pas étudiées, donc je suis loin d'être une spécialiste. J'ai dû pas mal me documenter pour l'écriture de la vraie vie, mais oui, j'aime bien ça.
Les sciences cognitives, plus particulièrement, non ? Dans votre livre, en tout cas, vous avez une certaine acuité sur les sciences cognitives.
Bah, il paraît. C'est comme dans Bonobo Moussaka, ma pièce, c'est rigolo. Hein. Après l'avoir jouée un soir, il y a un médecin qui est venu me voir en me disant « Mais t'as des connaissances en neurosciences qui sont quand même très, très... »
Oui, bien sûr, je gère la neuroscience à crever, évidemment. Mais voilà, oui, ça m'intéresse tout en... Vraiment, j'en touche pas une, mais ça m'intéresse, oui.
Votre personnage ne veut pas pleurer parce que ça la met en colère contre elle-même.
Ah, ça dépend à quel moment. À un moment, elle se force à pleurer, par contre.
À un moment donné, elle se force à pleurer, ouais. Mais elle dit aussi, à un moment donné, il n'est pas question que je pleure. Et elle est obligée, enfin, elle pleure finalement, et elle est très en colère contre elle-même.
Oui, oui, parce que parce qu'elle, c'est un moment où elle ne veut pas montrer sa faiblesse. Elle veut pas prêter le flanc à. C'est comme dans une meute de loups. Je crois qu'il y a des moments où un loup, un animal, ne peut pas montrer sa vulnérabilité, sinon il se fait bouffer par les autres. Donc il y a quelque chose de ça. Et puis à d'autres moments, elle se rend compte qu'elle devient sèche à l'intérieur, que à force de gérer ses émotions, à force d'être comme ça dans la lutte et dans le combat. Il y a quelque chose qui est en train de se dessécher à l'intérieur, et à un moment elle se dit bon, il faut que j'aille donner des grands coups de pioche dans ma source là, pour justement laisser rejaillir les larmes, laisser rejaillir les émotions, parce que sinon je vais juste devenir une bête de combat, et je veux pas devenir ça non plus.
Ce personnage est vraiment régulièrement en train d'essayer de gérer ses émotions entre guillemets, qui est quand même un vrai sujet d'actualité aussi.
Ah oui.
On parle beaucoup des émotions aujourd'hui, des coachs qui sont liés à l'état émotionnel, à la communication non violente. Et votre personnage, pour une petite fille, a une certaine maturité par rapport à sa vision de ses émotions, de celle de sa maman, de celle de son père, qu'elle analyse avec une grande froideur. Vous trouvez aujourd'hui que les gens font très attention, plus attention à leurs émotions, essayent de les contrôler. C'est un sujet qui est préoccupant pour vous ?
Ah, c'est rigolo que vous parliez de ça. C'est vraiment une question qu'on m'a jamais posée. Et en même temps, au moment où vous la posez, je me dis que je devrais en parler avec ma psy. Parce que j'ai pas d'avis sur la façon dont les gens en général gèrent leurs émotions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au moment où j'écris La vraie vie, j'étais en pleine réflexion sur ma façon de gérer mes émotions, et en tout cas de ne pas assez les accepter, les afficher, et que du coup ça m'a joué des tours dans ma vie, parce que voilà, à un moment on essaie toujours de se montrer sous son meilleur jour, on essaie d'offrir un visage souriant, facile, agréable aux gens qui nous entourent et aux gens qui nous aiment, parce qu'on a envie qu'ils nous aiment en retour, enfin aux gens qu'on aime, parce qu'on a envie qu'ils nous aiment en retour. Et c'est vrai que, mais ça j'en prends conscience là au moment où j'en parle avec vous, que c'est vrai que j'étais dans cette réflexion là au moment où j'ai écrit La vraie vie, mais dans ma réflexion personnelle par rapport à ça, oui. Donc, comment gérer ses émotions, à la fois être capable à un moment de les contrôler, parce qu'on peut pas être, sinon on redevient un enfant, et ce serait assez merveilleux hein, de pouvoir piquer des grosses colères, et puis la seconde d'après d'avoir un fou rire et d'être comme ça dans une attitude complètement bipolaire, mais c'est pas possible. On a des avions à faire voler dans le ciel, on a des trains à conduire, on a plein de choses qui font qu'on ne peut pas. Mais donc comment est-ce qu'on gère ça, effectivement, à la fois en les contrôlant et en les laissant s'exprimer aussi à certains moments, parce que sinon je suis absolument persuadée que y a pas mal de maladies qui peuvent trouver leur origine, entre autres, là-dedans, dans des émotions mal gérées, dans des émotions trop contenues. Ça je suis certaine, ouais.
Donc, il y a de vous dans ce livre ?
Ah oui, 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 oui. Enfin, je l'écris, oui. non, bien sûr qu'il y a de moi. Alors, c'est pas du tout autobiographique, mais c'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point, dans quelque chose, en inventant une histoire, on se raconte d'une façon... terriblement impudique, c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression que j'aurais voulu écrire une autobiographie, je me serais pas dévoilée autant que dans La vraie vie.
Votre personnage dit aussi qu'elle est dans son brouillon de vie, et elle répète plusieurs fois que ah ben oui, c'est vrai, je suis dans la branche ratée de ma vie. Donc on revient sur cette histoire de renouveau, de recommencement perpétuel. Vous croyez qu'on a des nouvelles chances régulièrement de réinventer une vie ?
Oui, je pense qu'on vit plusieurs vies, ou en tout cas, on a la possibilité de vivre plusieurs vies dans une vie. Maintenant, le truc, c'est que mon héroïne, elle s'imagine qu'elle va remonter le temps, qu'elle va pouvoir créer une machine, et c'est pour ça qu'elle étudie la science, c'est pour ça qu'elle étudie la physique quantique, en se disant, ben voilà, moi, je vais créer une machine qui va me permettre de remonter dans le temps et d'effacer le drame initial qui l'a traumatisée. Et donc c'est vrai que parfois elle prend des risques en se disant je m'en fous, de toute façon je vais remonter dans le temps, donc ce que je suis en train de vivre là maintenant n'existera plus, donc j'ai le droit de prendre des risques, ce qui est assez fabuleux, si j'aimerais avoir cette audace. Voilà, moi je crois que le voyage dans le temps n'existe pas, ou du moins pas encore. Donc on doit faire avec la linéarité de notre vie, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment passé, on ne revient pas en arrière, ça ne s'effacera pas. Maintenant, là-dedans, effectivement, oui, bien sûr, on a des nouvelles chances, on peut vivre plusieurs vies, et peut-être que c'est l'époque qui veut ça aussi, ne fût-ce que professionnellement. Avant, on faisait une carrière. A priori, on avait un métier sur toute sa vie. C'était très rare de changer d'orientation. Là, aujourd'hui, on est, et ça, c'est un des aspects positifs, je trouve, de notre époque, c'est qu'on a le droit de se planter, on a le droit d'essayer d'autres choses. Moi, si j'ai pas déjà fait 12 métiers dans ma vie, j'en ai pas fait un, donc c'est assez génial. Et le succès de la vraie vie en est la meilleure illustration. Si on m'avait dit il y a même encore un an et demi que mon nouveau métier ça allait être écrivain, j'aurais rigolé, j'aurais pas cru une seule seconde.
Vous aviez jamais écrit avant ?
Non. Non, je dis ça, mais j'avais essayé d'écrire un scénario de film, de long métrage, qui n'a jamais été porté à l'écran, et un scénario de court métrage. Qui n'a jamais été porté à l'écran non plus.
Vous aviez envie, mais ça fonctionnait pas.
En fait, les premières tentatives d'écriture que j'ai faites, je les ai peut-être un petit peu faites à l'envers, dans le sens où j'essayais d'être comédienne, parce que c'est ma formation de départ, et que comme je trouvais pas de boulot, je me suis dit je vais me le créer. Et donc, je vais écrire un film et comme ça, je jouerai dedans. Ce qui n'était vraiment pas la façon la plus simple de parvenir à mes fins, parce qu'en fait, faire un film, c'est juste le truc le plus compliqué du monde. Et puis j'ai changé de métier, j'ai fait des enfants, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et je suis revenue à l'écriture avec Bonobo Moussaka, parce que là, tout à coup, j'avais quelque chose à dire. Donc, c'est rigolo. C'est vrai que les tentatives d'écriture que j'avais faites avant, c'est pas parce que j'avais quelque chose à dire, c'est parce que j'utilisais ça comme un moyen d'arriver à un objectif. Alors que Bonobo, je l'ai écrit parce que vraiment, j'avais un truc dans le ventre et qu'il fallait que ça sorte. Et que je l'ai écrit sous forme d'un monologue de théâtre, parce que justement, j'avais fait l'expérience du scénario de film et que je me suis dit, c'est juste la machine, l'usine à gaz, ça qu'est-ce que je pourrais faire d'ultra simple pour être sûr que ce que j'écris là maintenant soit transmis au public. Quelle est la façon la plus simple d'amener un texte à un public? Et je me suis dit, le théâtre, le monologue de théâtre, c'est le média le plus direct, le plus simple, qui demande zéro investissement, zéro moyen. Et donc j'ai écrit comme ça, et le spectacle s'est monté comme ça, c'est-à-dire qu'on a répété dans mon salon, et je me suis octroyé 40 euros de budget pour aller acheter du bois pour me construire deux tabourets pour la scénographie, mais voilà. Et là, curieusement, ça a marché, parce que peut-être parce que là j'avais vraiment mis mes tripes sur la table et que j'avais un propos et une vraie nécessité de monter sur scène.
Et là, ce livre-là, c'était parce qu'il y avait plus de personnages, du coup ça ne pouvait plus être une pièce de théâtre, un monologue, un récit, non, de cette façon-là en tout cas.
Non, c'est parce que le monologue, je l'avais fait et je le jouais sur scène, voilà, ces préoccupations-là, je les avais évacuées. Mais du coup, en écrivant le monologue, j'ai pris le virus de l'écriture quotidienne, de cette discipline, et je me suis dit, une fois que j'avais fini d'écrire Bonobo Moussaka, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc j'ai écrit une nouvelle, parce qu'il y avait un concours de nouvelles qui était organisé. Je me suis dit, je vais essayer. Et puis j'ai fait lire cette nouvelle à un copain qui est écrivain, et qui, en la lisant, m'a dit, bon, ok. Ma chérie, tu dois écrire un roman maintenant, parce que les nouvelles, ça n'intéresse pas les éditeurs. Donc, si tu as envie de continuer à écrire, tu te lances dans un roman. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, mais attends, un roman. Enfin, ça me paraissait hyper prétentieux d'imaginer que j'allais faire un roman. Mais donc voilà, j'ai commencé à l'écrire comme ça, parce que j'avais simplement envie de continuer à écrire.
Et votre personnage souffre en classe d'immobilité. Elle ne supporte pas de rester assise sans bouger. Donc, indirectement aussi, vous abordez la question de l'enfant en classe qui veut apprendre, qu'on ne laisse pas forcément apprendre à son rythme, qui veut bouger, qu'on ne laisse pas bouger en classe. C'est une question qui est venue naturellement, c'est une vraie préoccupation que vous aviez de maman aussi, une vraie préoccupation sur l'école.
Oui, complètement. Une vraie préoccupation sur l'école. Après, j'ai une chance immense, c'est que visiblement mes filles supportent très bien de rester assises 8 heures par jour à ingérer le savoir de cette façon-là. Mais je suis à peu près persuadée que ça ne convient pas à tous les enfants, loin de là, vraiment, et que je ne comprends pas. Enfin voilà. Déjà l'invention de la chaise, on peut en dire plein de trucs, mais ça nous cause des problèmes physiologiques énormes. C'est une aberration de rester assis 8 heures par jour. C'est pour ça qu'on a mal au dos, c'est pour ça qu'on a plein de problèmes. Donc et le fait de oui, mais l'immobilité va aussi avec le fait qu'on rend les enfants passifs par rapport à leur apprentissage. Et que je pense que c'est une erreur, je pense que ça ne va pas. Et qu'aujourd'hui, peut-être que... Après, je sais que le problème n'est pas simple et ne peut pas être résumé à ça, mais quand on entend le nombre d'enfants hyperactifs, hyperkinétiques, à qui on fout une médication qui est quand même super lourde, je trouve ça bizarre. Je trouve ça curieux d'en arriver à droguer des gosses pour qu'ils restent assis toute la journée, Et je me dis que peut-être qu'une des réponses, c'est dans le physique, c'est dans le fait que les enfants ne bougent pas assez, qu'on devrait leur laisser la possibilité de bouger plus, déjà d'avoir plus d'activité physique, clairement. Et puis même en classe, voilà, c'est cette idée de rester assis 8 heures par jour, je trouve ça assez alarmant.
Votre personnage a aussi cette symbolique de ne pas vouloir rester dans l'immobilité.
Oui, tout à fait, effectivement. C'est-à-dire qu'elle a un problème. Elle a son petit frère qu'elle aime de tout son cœur, qui ne sourit plus parce qu'il a été traumatisé par un événement. Elle a un problème et son réflexe par rapport à ce problème-là, ça va être de se mobiliser. Avec un objectif qui est complètement fou, qui est de se dire je vais créer une machine à remonter le temps et qui paraît complètement impossible, mais qui a au moins le mérite de la mobiliser. Et c'est vrai qu'elle ne reste pas passive par rapport au problème qu'elle a. Heureusement pour elle, elle a les ressources pour le faire. Ce qui, je précise, n'est pas le cas de tout le monde et c'est pas du tout une leçon de morale que je donne dans le bouquin. Mais voilà, elle a les ressources, elle a ce réflexe salvateur de se mettre en marche, de se mettre en route et de poursuivre un objectif qui peut paraître chimérique, mais qui a au moins le mérite de la faire bouger, de la faire sortir de chez elle, d'aller rencontrer des gens et du coup d'apprendre des choses et d'évoluer. Ouais.
C'est un objectif très solidaire aussi. Elle a un objectif pour son frère.
Il s'agit de sauver un enfant, ouais. Et ça aussi, c'est rigolo. Après l'avoir écrit, j'ai réalisé, je me suis dit, tiens, c'est fou. Parce que mon immense préoccupation et la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, c'était ça. C'était l'inquiétude que j'ai pour mes enfants, mais pour tous les enfants, pour les générations qui viennent, du monde qu'on leur laisse, de l'immense bordel qu'on est en train de leur préparer. Et c'est rigolo, j'écris un roman en me disant, là j'écris une fiction, c'est pas du tout, justement, j'y mets aucune préoccupation politique, tout ça j'ai mis dans Bonobo Moussaka, donc il n'y a pas de manifeste, il n'y a rien du tout. Et après coup, je me dis, il est quand même question de sauver un enfant et de voir comment la science, et surtout une jeune fille, donc quelqu'un de relativement jeune, grâce à la science, va pouvoir sauver un enfant. Et donc je me suis dit, bon bah oui, ok, j'ai rien inventé. En tout cas, je ne maîtrise rien et mes préoccupations se prennent le dessus tout le temps.
Mais vous êtes bienveillante parce qu'en fait, elle n'y arrive pas du premier coup. Hein. Elle a des échecs, il y a des étapes, elle fait marche arrière, elle avance. Elle est vraiment dans la réalité, cette petite fille. Elle veut sauver un enfant et puis elle marche par étapes comme elle peut avec les moyens qu'elle a. comme on peut imaginer qu'on puisse tenter de sauver un enfant tous les jours, et c'est aussi ce qu'on voit tous les jours dans les médias. Vous lisez beaucoup la presse ?
Pas du tout.
Jamais.
J'ai arrêté parce qu'à un moment, vraiment, j'arrivais plus à dormir, donc j'ai arrêté.
D'une façon générale, sur ce livre, finalement, quel est le retour du public, des gens qui viennent vous voir ? Est-ce qu'il y a, d'après vous, une certaine fascination pour le mal ?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas. J'ai l'impression que beaucoup de gens partagent les craintes que j'ai, mes préoccupations, qui effectivement sont loin d'être sont loin d'être originales. Là, pour le coup, je crois qu'on est nombreux à se poser ces questions-là et à partager cette inquiétude-là. Et que dans cette histoire, je raconte comment c'est possible, comment dans toute cette noirceur, on peut trouver de l'espoir et comment on a le droit de croire en des rêves complètement fous. Donc je crois que c'est plus ça qu'une fascination ou alors ça veut dire que la fascination vient de la peur et qu'à un moment, on a besoin peut-être d'aller de nouveau d'aller apprivoiser cette bête-là à l'intérieur, parce qu'on l'a tous et qu'on essaye de la planquer dans un cachot bien au fond de nous en disant elle me fait vraiment trop peur, j'ai pas envie d'aller la voir. Peut-être que dans un livre comme ça qui effectivement à la base est plutôt sombre, je dis aux gens si allez venez quand même jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup, parce qu'il y a peut-être il y a peut-être des choses à apprendre, et peut-être que la première chose à faire pour l'apprivoiser, c'est déjà d'aller la regarder.
Merci Adeline Dieudonné.
Avec grand plaisir. Merci à vous.